Les Balados au IC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série Pop en stock transatlantique.
Bonjour à toutes et à tous, vous les amateurs de pop culture venus de tous les horizons, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop en stock, mouture transatlantique. Aujourd'hui, c'est moi, Régis Pierfieux, qui vais animer cet épisode consacré au phénomène Elden Ring, le dernier jeu du studio japonais désormais fort connu et respecté, From Software. Phénomène donc, puisque les derniers chiffres font état d'un succès commercial majeur, 12 millions d'exemplaires vendus, et surtout un succès critique à la fois médiatique et public, puisque le jeu agrège sur le site de référence Metacritic, un score de presse spécialisée de 96 et un score de joueurs de 7,9. Beaucoup parlent déjà d'un potentiel jeu de l'année et d'un possible nouveau pilier du jeu vidéo, si ce n'est tout simplement, pour certains, l'un des plus grands jeux de tous les temps. Du genre de ceux qui marquent une expérience de joueur à jamais et changent la face de l'industrie pour le meilleur. Elden Ring, c'est en effet l'aboutissement certain du Souls-like, ce genre créé par le studio avec son premier jeu passé inaperçu à l'époque, Demon's Souls. Le Souls-like, c'est ce type de jeu à la troisième personne dans lequel le joueur évolue dans un univers cryptique où chaque rencontre avec un ennemi peut être fatale étant donné la difficulté volontaire des adversaires. Moins narratif qu'un JRPG classique comme Final Fantasy ou qu'un RPG occidental comme The Witcher, le Souls-like repose sur des mécaniques d'exploration. Pas de carte, pas d'indication très claire sur l'univers dans lequel évolue le joueur. Celui-ci doit donc décrypter un monde hostile qui a existé avant lui, mais sur lequel il doit avoir un impact déterminant tout au long de sa quête. Si le genre lancé par From Software a été maintes fois repris, je pense notamment à The Surge en science-fiction, Mortal Shell ou encore Lords of the Fallen, les créateurs originaux conservent une aura particulière et leurs productions sont toujours encensées par la critique. Une aura que l'on peut attribuer à des mécaniques de gameplay savamment mises en place au fil des années, mais surtout par la mythologie de ces jeux, mélange d'étonnants qui emprunte autant au christianisme qu'au judaïsme, à l'hindouisme, au panthéon grec. La collaboration entre From Software et George R.R. Martin, l'auteur de la saga Game of Thrones, parachève une vision entamée dans les Dark Souls et autres Bloodborne. Le jeu est désormais un monde ouvert gigantesque, mais il conserve une identité cryptique. C'est en évoluant dans cet univers investi d'un sacré permanent et de références mythologiques en pagaille que le joueur doit créer du sens. Alors je vais ajouter, avant de présenter nos invités, que dernière, Elden Ring se trouve une nouvelle fois Hidetaka Miyazaki, le créateur, le fondateur de From Software. Et il est bon de rappeler toujours cette petite histoire qui explique le caractère hermétique et mystérieux des Souls et donc d'Elden Ring qui nous intéresse aujourd'hui. Caractère qui fascine donc les joueurs et peut en grande partie expliquer son succès. Quand il était enfant, a-t-il raconté dans une interview, il était un fervent lecteur, bien que peu talentueux. Il lisait beaucoup de romans de fantasy occidentaux et en particulier la fameuse saga Un livre dont vous êtes le héros. Souvent, il arrivait à des passages de texte qu'il avait du mal à comprendre, alors il permettait à son imagination de combler les blancs à l'aide des illustrations qui accompagnaient ses livres. De cette façon, il avait la sensation de coécrire la fiction aux côtés de son auteur original. Le frisson de ce processus ne l'a jamais quitté, dit-il dans cette interview, et ce frisson est très présent dans ses jeux vidéo fascinants, ésotériques et forcément mystérieux. Pour nous accompagner dans cet épisode spécial, nous avons encore une fois un panel de qualité. Sarah Fontaine est level designer et quest designer, elle enseigne au collégial au campus ADN. Nous avons ensuite Sébastien Savard, qui est professeur invité en game design à l'UQAT. Et nous avons deux grands amateurs de jeux vidéo, deux nerds devant l'éternel, Jimmy Brizard et Boris Nonveillé, qui vont bien sûr nous parler de leur expérience de joueur en particulier. Donc un panel assez riche. Et bien sûr, moi-même, donc votre animateur. Je cède la parole tout de suite à Sébastien Savard.
Bonjour tout le monde, très content d'être là avec vous aujourd'hui. Donc oui, on en a parlé en introduction, un jeu mythique. J'ai entendu le mot Souls-like. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'on pourrait peut-être détailler la chose. Juste question que auditeurs et auditrices puissent, qui n'auraient peut-être pas joué à des Souls, puissent mieux savoir de quoi il en retourne. Moi, ce que j'aime beaucoup plus, c'est regarder le côté formel des jeux, là. Donc, comment qu'on les code si on voudrait en faire un semblable, là. Donc, c'est quoi, mettons, les étiquettes de genre qui s'appliquent, c'est quoi les mécaniques de jeu, les dynamiques qui opèrent. Fait que je propose juste d'en énumérer quelques-unes comme ça. Je pense que, on pourrait parler d'un action RPG si on était dans les côtés des fans, là. Donc, je le sépare en deux. Action d'un côté, RPG de l'autre. Donc, quand on est dans l'action, on est naturellement dans le temps réel. On disait tantôt qu'on était à la troisième personne. Moi, je parle plutôt d'une ocularisation ergodique. Hein, c'est nos termes scientifiques à l'université, qui est donc ancré sur le personnage. Donc, on peut tourner la caméra autour. On peut donc voir dans le dos du personnage pendant que lui regarde par en avant, si on veut. La plupart des Souls-like ont une approche qu'on dit avatarielle. Donc, ce n'est pas un acteur, ce n'est pas un personnage nommé. C'est le joueur ou la joueuse qui le fabrique en début de partie. Il peut le mettre à son goût ou être troll et vraiment jouer avec la customisation là, au départ. Donc, on va vraiment parler là, d'un blank slate, là, une coquille vide, là, le personnage qu'on incarne. Il ne parle jamais dans le jeu. Il peut dire oui, non, gros maximum là-dedans. Toujours dans l'action, on est dans une figure d'interactivité de navigation. Principalement, on marche, on court, on saute, on grimpe. Et on est aussi dans un paradigme de neutralisation. Il faut tuer des ennemis. C'est ça le but du jeu, règle générale, avec des armes de corps à corps, des armes à distance, un système de magie. Que lui va varier, on pourra en parler plus en profondeur, d'un jeu à l'autre aussi. Des fois, les systèmes vont un peu varier. Très important, la roulade. Ça fait même des mimes de temps en temps. Ça peut faire des vidéos comiques. Donc, c'est l'idée qu'on peut appuyer juste sur un bouton et le personnage fait une roulade ou un pas par en arrière et ainsi peut-être demeurer en vie un peu plus longtemps ou au contraire tomber dans un trou. Les contrôles, règle générale, c'est réfléchi, manette. Faut quand même garder en tête que, à une certaine époque, les jeux d'action, on appuyait sur les boutons X, A, B pour faire les actions, tandis que là, on est vraiment plus sur les gâchettes ici. Donc, on peut avoir un coup rapide, un coup lent, ce genre de choses-là. Avoir des boutons sur le bras gauche ou sur le bras droit et toutes sortes de combinaisons qui vont avec ça. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus ancré, mais il faut garder une perspective historique là, d'utiliser les gâchettes. Ce n'était pas nécessairement la norme avant. Donc, c'est. Puis de côté de l'action, ouais, c'est pas mal ça. Si je rajoute la RPG maintenant, dans RPG, on va peut-être parler d'exploration d'un certain monde qu'on pourrait voir ici de non linéaire. Dans Elden Ring, on pourrait franchir le truc du côté du monde ouvert. On en reviendra probablement tantôt. Il faut donc trouver des ennemis et il faut aussi ramasser des gogosses, des armes qui traînent. Là. Donc, à chaque fois qu'on voit quelque chose qui brille, on va être récompensé en y allant. Donc, ça force le joueur à se promener, à aller dans chacun des recoins parce qu'il ne sait jamais quel item il va trouver finalement dans cette affaire-là. On est dans la fantasy, donc les dragons, les squelettes, les zombies, les démons, les bébites, name it, les forêts, les donjons, les cimetières, les marécages, les ruines, tout ce champ lexical-là, si on veut. Et ensuite, on est aussi dans la gestion de ressources, parce que les RPG, c'est beaucoup ça aussi. Donc, on va être récompensé pour chaque ennemi qu'on tue. On va avoir des souls, là maintenant, c'est rendu des runes. Donc, l'idée, c'est d'essayer de ajouter ces chiffres-là à notre personnage pour qu'il soit plus fort mathématiquement. Donc, ça va simplifier notre progression. Donc, c'est les stats à la Donjon Dragon, si on veut. Là. Donc, encore une fois, force, dextérité, les points de vie, la résistance. Des stats, si on veut faire un clerc, un sorcier. Donc, on est aussi dans ce système de classe-là, mais les souls n'ont pas tant de classes. Peut-être on choisit une direction au départ, mais on n'est pas forcé d'y adhérer tout au long de la partie. On va plutôt parler de build. Donc, on peut faire quelqu'un qui est super fort à deux mains. On peut avoir quelqu'un agile avec un katana, un sorcier ou toutes sortes de mix là-dedans. La mathématique aussi est très centrée sur les objets. Donc, il faut aller voir un forgeron, lui donner des trucs qu'on a ramassés pour qu'il puisse améliorer nos armes. Et on a aussi une statistique qui va gérer nos points d'armure. Savoir, en fait, si on est capable de faire, mettons, une roulade rapide ou une roulade plus clunky, si on veut. Permettez-moi l'expression. Donc, ça, c'est pas mal les Souls-like. Elden Ring, lui, va rajouter quand même une forme d'exploration montée à tout ça. Donc, on ne l'avait peut-être pas vu souvent, ça. Donc, on va et se battre et explorer à dos de cheval. On ajoute aussi un élément de crafting avec la gestion des ressources. Donc, parmi les choses qu'on ramasse, il y en a peut-être encore beaucoup plus dans Elden Ring, on pourra en parler. On ajoute aussi une carte du monde dans Elden Ring, chose qu'on n'avait pas avant. D'habitude, on se fiait sur la reconnaissance spatiale qu'on avait. J'ai tout décrit ça. Ça peut quand même avoir l'air d'un n'importe quel action RPG quand même. L'élément qu'on a dit en introduction, c'était celui-là de la difficulté. Donc, celui-là vient quand même moduler beaucoup dans l'expérience de jeu qu'on a. Nous, en game design, on parle d'un pilier d'expérience visée. C'est vraiment celui-là du défi. C'est celui-là qui est le principal. Il y en aura d'autres naturellement autour, là, notamment celui-là de l'exploration. Mais ce défi-là, comment il s'opère? Souvent, c'est en prenant un petit peu tes points d'expérience en otage. Quand tu fais une défaite, ton personnage laisse une marque sur la carte et tu peux aller jusqu'à où tu étais, appuyer sur un bouton et récupérer toute la progression que tu avais. Si tu ne réussis pas à faire ça, tu perds. Et ça fait quand même bien de la frustration. Tous les joueurs de Souls ont vécu ça, d'avoir un 30 000 qui traîne et de mourir, de le perdre à jamais. Donc, c'est un sentiment de j'ai perdu mon temps. Et lorsque, au contraire, on réussit à le récupérer, là, on a un énorme sentiment de soulagement. Ouf, j'y échappais belle. Donc, on a vraiment des dynamiques de prise de risque dans la progression. Et quand on réussit ou quand qu'on sauve la mise, c'est vraiment quelque chose dans le cerveau, je trouve, qui est vraiment super plaisant. Après ça, les chiffres jouent aussi sa difficulté, là. C'est vraiment toujours des petits incréments. Donc, on va monter de niveau pratiquement au compte-gouttes. On va aller jusqu'à niveau 120, 130, des affaires de même. Chaque niveau te donne un point quelque part. Donc, tu n'as pas un sentiment nécessairement de progresser beaucoup de niveau en niveau, mais juste un peu pour t'encourager à continuer et à grinder, si on veut. On le disait aussi en intro, là, chaque ennemi peut être fatal. Fait que ça, c'est grâce à l'économie du jeu. On ne verrait pas ça dans un Final Fantasy au Super Nintendo, par exemple, où est-ce que tu arrives niveau 30, puis les ennemis, tu peux laisser la console ouverte et ils ne sont plus jamais capables de t'affecter. Ici, si tu ne fais pas attention, ça se peut que les mobs du début soient encore capables de te faire une mort prématurée. Donc, ça, c'est assez intéressant, c'est assez garant de des Souls-like, si on veut. C'est beaucoup plus orienté sur l'habileté des joueurs, je dirais. C'est pour ça que c'est le fun pour les speedrunners. Même avec des petits chiffres, ils sont capables de progresser quand même assez loin dans le jeu. Il y en a qui vont dire, si le jeu est trop difficile, je vais essayer de chercher la combinaison magique, tout ça, de break the game. Il y a vraiment un rapport au jeu où est-ce qu'on essaie de trouver la manière de continuer. Donc, c'est pas toujours du sensorimoteur, là, des skills get good. C'est aussi trouver la combinaison, la twist, l'item qui va te permettre d'avancer. C'est intrinsèquement lié avec la difficulté aussi, là. Donc, si on trouve le moyen, par exemple, d'invoquer des personnages pour un boss, ben, ça ne file pas comme si j'avais descendu la difficulté. Ça file que j'ai trouvé le moyen d'avancer finalement avec les moyens qu'on me donnait. Et ça, c'est vraiment, je pense, une belle réussite de la licence. Sinon, on peut dire qu'il y a très peu de guidance. On est laissé à nous-mêmes. Il faut retenir sa route. Je dis souvent knowledge is power. Donc, savoir où aller dans le jeu, c'est vraiment un outil efficace, peut-être plus que juste avoir des bons réflexes. Puis sinon, ben, j'ajouterais qu'on a des éléments de PVP, de multijoueurs aussi, qui entrent dans la donne. Donc, certains joueurs et joueuses vont vouloir faire du joueur contre joueur, d'autres moins, ne sont pas obligés. Parfois, c'est malgré vous, vous allez vous faire envahir dans votre mission qui était déjà difficile. Donc, quelqu'un arrive et vous casse la gueule. C'est des choses qui se passent. On peut communiquer par emote, par gestuel dans le jeu, là, avec il n'y a pas vraiment là, de voice chat. Et que dire aussi sur les fameuses marques textuelles qu'il y a à peu près partout dans l'univers que les joueurs peuvent laisser pour des vestiges ou des marques, des avertissements ou du trolling. Donc, ça, c'est un autre aspect assez intéressant. Fait que moi, c'est ma lecture des Souls-like. Donc là, j'ai essayé de montrer bon, le fil conducteur là-dedans, Maintenant, Elden Ring, je pense, reprend principalement ce que j'ai dit, mais va quand même ajouter quelques petites subtilités là-dedans. Puis on a tout l'épisode aujourd'hui pour en jaser ensemble.
Merci Sébastien. Par rapport à ce que tu disais, il me semble qu'il y a quand même un élément qui est très important, c'est la notion de prise de risque. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais la prise de risque récompensée, la prise de risque qui peut récompenser ou qui peut punir, c'est quand même un facteur très important des Souls-like. Dans Elden Ring, peut-être encore plus, puisque la structure en monde ouvert va changer la donne. Alors, y a-t-il des petites. Peut-être que les camarades veulent rajouter des choses sur ce que tu viens de dire.
Juste pour préciser, parce qu'il y a une notion que tu as expliquée, mais qui est vraiment à ne pas sous-estimer dans le jeu. C'est une notion qui a été de mémoire apportée par Demon's Souls et que beaucoup de jeux ont repris, notamment Zelda par exemple. C'est la notion en fait d'endurance qui fait que n'importe quelle action, que ce soit frapper, esquiver, parer, tout ce qui va être autre chose que se déplacer avec le joystick, va coûter de l'endurance. Et donc, ça va vraiment être la notion de prise de risque. C'est-à-dire que si vous voulez jouer défensif, par exemple, vous voulez apprendre les patterns d'un boss, bien, vous allez devoir utiliser votre endurance pour esquiver, parer ou courir ou ce genre de choses. Mais par contre, si vous devez devenir offensif, eh bien, en fait, vous allez devoir en fait sacrifier des fenêtres d'esquive pour réussir à mettre des dégâts. Et donc, il y a vraiment un équilibre à trouver entre frapper et esquiver. Tout simplement parce que si vous vous retrouvez à court d'endurance à un moment donné où le boss est, je prends le boss en question par exemple, où le boss est capable de répliquer, en général, là, il y a de grandes chances que les choses se passent mal. Donc, il faut toujours lutter entre le besoin de faire les dégâts et en même temps devoir quand même se garder un peu d'endurance et de possibilités pour tout simplement pouvoir esquiver ou ce genre de choses. Et c'est ça qui est très, très intéressant. En général, je pense que c'est un feeling qu'on a tous si on a joué à ce genre de jeu. C'est ce côté jusqu'au bout, faut vraiment pas sous-estimer le boss. Et même quand on est à un coup de pouvoir l'achever, mine de rien, si on est un peu trop greedy et qu'on n'a pas de quoi esquiver, on peut très vite se faire punir pour ça. Et la punition, souvent, c'est la mort. Donc, c'est vraiment un équilibre mental aussi à gérer en tant que pression. C'est pas juste on a les bonnes stats, on fonce sur le boss, on le tape et ça fonctionne. Non, ça marche pas comme ça.
Très
Mais
bonne
maintenant,
question.
on est capable encore, avec ce qu'on peut refaire le jeu, même en refaisant le jeu, ça m'est déjà arrivé de me faire écraser par un boss parce que je me suis cru trop fort pour lui. En fait, non, mais si je fais pas attention et que je sous-estime, c'est lui qui va m'avoir.
Effectivement, quand tu as mentionné le terme greedy, quand on pense à des Souls, on a aussi la citation Don't get greedy, en parallèle avec Get good. Of course, qui vient s'impliquer dans nos cerveaux. Puis je trouve que c'est extrêmement intéressant aussi de voir la variation entre les différents Souls. On parle de Soulsborne aussi parce que Bloodborne a amené des différentes mécaniques, un différent pattern du joueur vis-à-vis cette perspective-là de get greedy en tant que player. Les Souls en général sont des jeux qui sont extrêmement lents d'une certaine façon parce qu'ils sont basés sur l'apprentissage, ils sont basés sur la répétition, répétition qui d'habitude est connotée de façon extrêmement négative en jeu vidéo. On n'aime pas refaire les mêmes choses. C'est quelque chose qui vient un peu endormir le player, quelque chose qui vient potentiellement nuire à l'expérience, sauf que dans les Souls, c'est connoté de façon positive, car la répétition vient avec l'apprentissage. Donc, l'apprentissage de pattern et le fait de devoir, avec cet apprentissage-là, ralentir son rythme de jeu et juste prendre finalement un step back et ne pas être, ben c'est ça, ne pas donner plus que qu'est-ce qu'on peut en donner au moment présent. Ce qui est intéressant avec Bloodborne, c'est qu'ils ont décidé d'y aller un peu à l'opposé, en venant récompenser le joueur si il prenait encore plus de risques. On a la mécanique lorsqu'on perd de la vie et qu'on strike back très, très, très rapidement, on nous redonne notre vie qui vient encourager ce nouveau player behavior-là vis-à-vis une mécanique qui était déjà quand même profondément, profondément ancré dans l'esprit des joueurs de Souls. Donc, c'est ça. C'est intéressant à voir aussi à quel point From Software ont fait un break de cette mentalité-là, de lenteur, de step back, d'observation lors de Bloodborne, lors de Sekiro, mais qui sont tout de même revenus à ça par la suite dans Elden Ring pour nous donner une expérience qui rappelait les précédents Souls.
Et c'est d'ailleurs un reproche qu'on a pu faire, certains ont pu faire à Elden Ring en disant que ce Elden Ring, finalement, c'est Dark Souls 4, parce qu'en termes de mécanique de gameplay, de design, on avait vraiment l'impression d'avoir un successeur à Dark Souls 3. Et ça me permet, ce que tu viens de dire, de faire le lien parfait avec ce que Jimmy va nous expliquer sur la structure en monde ouvert, puisque on disait souvent, enfin certains joueurs disent Elden Ring, c'est Dark Souls 4 en monde ouvert. Alors justement, ça me permet de faire une belle transition, et Jimmy va nous parler de ça.
Oui, parce que effectivement, bon, bonjour. Bonjour. Effectivement, c'est Elden Ring est quand même un monde ouvert qui est un petit peu à part, surtout en 2022 où maintenant les mondes ouverts sont quand même depuis certaines licences phares qui ont eu du succès, que ce soit la Assassin's Creed, les Borderlands, les Far Cry et tout ça. On a quand même une recette qui a des codes en fait du monde ouvert qui ont commencé toujours à se mettre en place, et même les meilleurs mondes ouverts ou ceux qui sont considérés comme vraiment excellents. Là, comme ça, je pense à Horizon Zero Dawn ou même ce genre de choses-là, ont intégré ces codes-là. Notamment, comme disait Sébastien, il y a beaucoup, par exemple, de petites choses à ramasser. On va avoir beaucoup de quêtes secondaires, beaucoup de crafting. Elden Ring, en fait, n'a quasiment pas ça. C'est-à-dire qu'on a des choses à ramasser, mais déjà, elles ne sont pas obligatoires et c'est surtout des bonus. Ça va vous servir à avoir des objets des consommables, mais vous n'avez pas ramassé, je ne sais pas moi, 10 plantes pour faire un talisman ou une armure ou quelque chose comme ça. Tout ce qui est armure, épée, tout ce qui va vous servir à long terme qui ne va pas se briser, ça va être à trouver sur les boss ou dans des coffres, mais en général, ça va être caché. Ça veut dire que le jeu va surtout encourager l'exploration et pas du tout les mécaniques de craft ou absolument de ramasser tout ce qu'on peut, que ce soit les herbes, les objets, les os, les sortes de choses. Ça va vous aider à tout ça. Elden Ring se comparait plus éventuellement à un Skyrim plutôt qu'à tous les autres jeux cités précédemment. C'est-à-dire que Elden Ring, grosso modo, une fois qu'on a passé le tutoriel, et encore, pour l'anecdote d'ailleurs, le tutoriel de Elden Ring est caché, donc même si on ne fouille pas, on part dans le monde, on ne sait pas comment on part, on ne sait pas comment on court, tout ça. Donc même le tuto a été mis en place pour que seuls les curieux puissent le trouver. Et en fait, Elden Ring a vraiment cette mécanique-là du... Moi, perso, j'ai toujours été dans les jeux à monde ouvert. J'ai toujours été... Tu me donnes mes outils, je pars et je découvre moi-même le jeu, on verra ce qui se passe. Et Elden Ring, en fait, force ça. C'est-à-dire que, hormis de vous dire que, grosso modo, vous devez suivre... Parce qu'on a des... Donc, je l'avais dit précédemment, mais on a des genres de sites de grâce qui sont nos points de sauvegarde, entre guillemets, qui sont également des points de téléportation. Hormis un espèce de ray de lumière qui va du premier point de grâce que vous trouvez vers le suivant, qui vous permet de vous indiquer vers où est le gros ennemi qu'il faut affronter. Contrairement à beaucoup de jeux où on sait déjà dès le début ce qu'il faut faire, le Elden Ring prend carrément le contre-pied en donnant une intro en disant « Oui, vous devez effectivement refaire l'anneau d'Elden. » Mais à part ça, vous n'avez aucune idée de qui vous devez combattre, vous n'avez aucune idée de pourquoi vous devez le faire, vous n'avez aucune idée de comment vous allez y arriver, où ils sont. On n'a aucune info. Les seules infos qu'on a, c'est qu'il y a vous et 5 autres personnes qui sont des sans éclat, qui doivent accomplir le même objectif que vous. Contrairement à tous les Souls, ou Bloodborne, qui eux, par contre, vont vous indiquer dès le début les 4-5 ennemis que vous devez affronter jusqu'au boss final. Donc c'est vraiment l'inverse, que ça vous encourage en fait, au lieu de vous dire tiens je dois aller chercher, je dois aller tuer ces 5 boss là, ça va vous dire d'abord je dois les trouver, donc pour ça qu'est-ce qu'il faut faire, il faut explorer, et tout ce que vous allez avoir dans l'univers, tout ce que vous allez découvrir dans l'univers, soit des écrits, des objets, des choses comme ça, va vous aider en fait à comprendre un peu ce qui se passe, mais ça va jamais être le jeu va jamais vous dire tu dois absolument aller à tel endroit et tuer tel boss. Si vous souhaitez, vous pouvez très bien prendre votre cheval, aller n'importe où. Vous pouvez quasiment accéder à la zone de fin dès le début. Rien ne vous l'indique. Évidemment, naturellement, à votre première run, ça va pas. Vous allez souvent accéder à des zones les plus simples. Celle la plus connue, c'est dans la bande annonce. On a notamment un boss avec plein de bras, par exemple. Naturellement, en fait, le jeu va vous amener à ce boss-là en particulier. Mais vous pouvez très bien, si vous voulez, aller affronter le 4e boss sur 5 à aller tuer. Il n'y a pas de problème. Si vous connaissez un petit peu le jeu, vous pouvez le faire. Et ça, c'est une chose qui est souvent grindée dans les mondes ouverts. C'est-à-dire qu'il y a des zones, même dans les Dark Souls, il y a des zones où vous explorez, vous savez que vous ne pouvez pas y aller maintenant. Vous savez que le niveau est tellement fort que vous ne pouvez rien faire, vous prenez un coup, votre endurance part tout de suite, et ainsi de suite. Alors que personnellement, je trouve qu'Elden Ring invite vraiment à explorer toutes les zones sans même spécialement avoir battu les boss. Et ça permet en fait d'avoir vraiment ce sentiment de liberté. Et également, et c'est une sensation un peu que je comprends, peut être un peu désespérante, mais il y a vraiment ce côté aussi d'être tout le temps perdu, d'être tout le temps dans un cauchemar où plus vous allez explorer le jeu, plus vous allez découvrir des zones qui sont sombres, des ennemis qui sont vraiment à la fois forts et en même temps, il y en a certains qui ont vraiment un côté sordide et effrayant. Et ça fait en sorte que on a vraiment une sensation différente dans un Elden Ring, puisque dans un Elden Ring par rapport aux autres, on ne peut pas s'engager, comme dans les licences des Souls, on ne peut pas s'engager, on joue une heure par soir tranquille à Elden Ring et on va se coucher. Elden Ring, ça a vraiment demandé un investissement. Et notamment, il y avait un testeur qui avait fait une vidéo dessus et qui disait, moi, j'ai joué 50 heures, j'ai battu les trois premiers boss, je crois à peu près les trois boss principaux. Et il avait 50 heures de jeu dessus et il disait vraiment, je n'arrive pas, genre le jeu m'a lessivé, je ne peux pas continuer, j'ai pas l'effort à mettre dessus, j'ai ma fille à m'occuper, j'ai ma vie de famille, je peux pas m'investir autant. Mais il dit, par contre, j'ai adoré mon expérience parce que vraiment, le jeu n'est pas frustrant dans le sens où c'est pas un wannabe the guy, désolé pour ceux qui n'ont pas la référence. C'est un jeu, en fait, vous êtes obligé de mourir à certains endroits pour gagner. Le jeu est fait comme ça, c'est-à-dire pas un moyen de se dire, ah tiens, il va faire ça, c'est bon, je peux l'esquiver. Non, dans le jeu, c'est vous avancez, il y a une pomme qui tombe d'un arbre, vous la prenez, vous mourrez direct, vous allez monter sur une plateforme, la pomme elle va partir à l'horizontale et vous allez vous la prendre juste après parce que le jeu est fait pour vous tuer, quoi. Et là, non, c'est vraiment, vous découvrez. La mort fait partie du jeu, donc c'est pas une punition en soi, c'est une motivation. Et c'est vraiment quelque chose qui est juste à ingérer. Et une fois qu'on l'a compris, que la mort n'est pas une punition, que c'est juste, ok, t'es mort, c'est pas grave, tu réessayes, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, si t'es pas assez fort, tu vas dans une autre zone, tu vas grinder, tu vas trouver d'autres armes. Mais vraiment, le jeu ne te bloque pas à un endroit. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez unique, parce que je trouve qu'il y a un feeling un peu entre Elden Ring et d'autres jeux un peu différents, comme Outer Wilds par exemple ou Death Stranding, où il y a un côté en fait la mort fait partie du jeu et donc vous avez juste en fait à apprendre les patterns de tout ça, à explorer où vous souhaitez, vous n'avez pas de limite pour finir le jeu non plus, à part tuer trois boss, tout le reste vous pouvez le faire entièrement. Et même je refais le jeu, effectivement il y a des passages où il n'y a même pas besoin d'objet clé, vous pouvez tout faire le jeu sans problème. Et c'est vraiment quelque chose, mais qu'on apprend par l'information et pas par, on va dire, le fait d'acquérir les objets. Par exemple, en l'exemple de Skyrim, qui est un des plus libres dans le même genre, dans Skyrim, vous devez avoir, à un niveau de la quête principale, une certaine compétence, qui s'appelle le cri, que si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas avancer dans le jeu, vous ne pouvez pas aller voir le boss de fin. Alors que Elden Ring, lui, propose de, si vous connaissez les endroits des boss, vous les tuez, vous allez voir le boss de fin, vous pouvez aller le vaincre. Et c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans très peu de jeux à la base. Et surtout, mais dans un monde ouvert, c'est très risqué puisque ça prend le risque en fait de pouvoir finir le jeu assez vite, même si Elden Ring, ce n'est pas le cas, même en ligne droite. Et là-dessus, d'ailleurs, ça vient pas de nulle part. Le grand jeu qui en fait a influencé Elden Ring pour son exploration, ça a été Breath of the Wild, qui est très connu notamment pour ça aussi. Qui a d'ailleurs des règles similaires dans le sens où dès le début, vous pouvez voir le boss de fin et le battre, même si, hormis les 3 speedrunners, c'est quasiment impossible dès le début. Et voilà, en fait, dans le fond, c'est vraiment des... Si vous mettez Elden Ring, c'est vraiment quelque chose qui va vous demander de l'investissement, qui va vous demander, surtout si vous ne connaissez pas du tout la série, qui va vous demander d'apprendre, qui va vous demander de mourir beaucoup, qui va vous demander surtout d'explorer, parce que comme disaient Sébastien et Sarah, on peut complètement zapper des mécaniques, c'est-à-dire on a des invocations par exemple qui permettent de faire venir un allié. Moi personnellement, sur ma première run, je l'ai eu mais vraiment 20 heures après 20 ou 30 heures de jeu. Alors si on connaît bien le jeu, on peut l'avoir au bout de 3 heures. Et tout ça parce que j'avais pas assez exploré, je m'étais pas assez intéressé en fait au lore du jeu. Et du coup, ça va vous rendre le jeu dur. Alors qu'en fait, si vous explorez, si vous prenez votre temps, vous immergez dans l'univers, vous avez plein d'indices qui vous donnent en fait qui vous donne des conseils pour vous dire, ok, il faudrait peut-être que tu fasses ça avant d'aller voir le boss, tout ça. Et si vous n'écoutez pas ça, vous allez peut-être pas droit dans le mur, mais vous allez vraiment avoir des difficultés. Alors que si vous prenez votre temps, vous prenez le temps de parler à tout le monde, prenez le temps d'explorer un petit peu, ça va vraiment vous donner des outils pour continuer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très typique de la série des Souls, mais qui est encore plus mis en avant dans Elden Ring, puisqu'on peut vraiment explorer où on veut, et même les développeurs se sont investis pour ça, notamment en mettant plus de PNJ, donc on rencontre plus de monde partout, on a des mécaniques de craft qu'on n'avait pas avant. Donc voilà, c'est vraiment des petites choses comme ça qui rendent le monde de Elden Ring plus, plus immense, plus intense aussi, beaucoup plus dur, personnellement, je trouve. Ça demande beaucoup plus d'investissement à Elden Ring qu'à Dark Souls parce qu'il se finit dans beaucoup plus de temps que le premier. Et vraiment, et surtout l'exploration, que j'ai pas retrouvé ça depuis Zelda, en fait, où il y a vraiment des zones qu'on peut rater complètement si on y va en ligne droite.
Ça rend le jeu meilleur? Ça, c'est une autre question. Parce que souvent, on dit, ah, un open world, ça, c'est juste mieux que semi-linéaire. Vos avis là-dessus, je serais curieux, hein, parce que j'en ai.
Oui, bah on peut en débattre avant qu'on ait les avis. Je voulais rajouter d'ailleurs, au-delà du meilleur, par contre, ce qui est certain, c'est que ça peut le rendre plus accessible. Ça explique certainement d'ailleurs ses chiffres de vente. C'est-à-dire que Jimmy l'a un peu expliqué en parlant de la structure en monde ouvert, ça permet d'éviter d'être bloqué. Ce qui n'est pas le cas d'un Dark Souls où on est dans une structure beaucoup plus linéaire et s'il y a un monstre à passer, il faut le passer, on ne peut pas l'esquiver. Elden Ring permet peut-être à des nouveaux joueurs de plus s'impliquer. Ça explique certainement le succès commercial qu'il a. Alors, est-ce que ça le rend meilleur? Bon, c'est la question de Sébastien. Je vais y répondre en premier parce que là, j'ai la parole. Moi, c'est certainement un de mes Souls préférés. Je trouve qu'ils ont réussi. C'est vrai que la monde ouverte pouvait faire peur. Je trouve qu'ils ont réussi à prendre le meilleur de ce que Zelda Breath of the Wild avait réussi à faire, le côté exploration. En fait, j'avais lu un test qui expliquait que un testeur expliquait, on a l'impression que les Dark Souls, les Bloodborne et tout ça ont été un brouillon de ce que en fait Elden Ring est devenu, c'est-à-dire vraiment pour moi c'est la consécration de tout ce qu'ils avaient mis en place. Voilà, ça c'est mon avis, je sais pas ce que les autres en pensent.
Pour moi, je pense que c'est une question de tempérament, de goût, comme demander est-ce qu'une comédie c'est meilleur qu'un film d'horreur. Moi personnellement, j'aime ça aussi comme ce côté que t'es laissé à toi-même. Tu ne sais pas comment augmenter ton personnage au début, tu sais pas comment avoir des nouveaux sorts, tu ne sais pas comment avoir ci, comment avoir ça. Ça, c'est l'espèce de laisser à soi-même, j'aime ça. Ben, ça peut être aussi un peu créant, peut-être pas bête. C'est une question de goût, mais j'ai vu comme un joueur qui, sur Reddit, là, qui avait commenté sur une image de la map qui disait. Mais comment vous faites pour que la map, ce soit pas juste une zone beige? Le gars, il avait joué genre 20 heures, 25 heures sans trouver de map. Fait qu'il y a ça aussi, ce côté-là, tu pars dans la mauvaise direction. Mais moi, j'aime ça. J'aime
ouais, c'est ça, c'est très drôle.
Je vais en parler un petit peu plus tard, mais j'aime ça, cette confiance-là qui est laissée mm-hmm. aux joueurs. Puis que tu participes un petit peu à cette expérience-là, finalement.
La première confrontation du jeu contre le Tree Sentinel pour des non-initiés aux Souls-like, disons, c'est justement c'est la confiance qui est donnée, l'apprentissage encore une fois, quand le joueur est laissé à lui-même en faisant « OK, ben vas-y, va te battre contre le gros monsieur sur le cheval avec une gigantesque hallebarde en way, puis après ça, tu vas peut-être réaliser que c'est pas immédiatement que tu dois le faire. » Et ben ça, c'est ce qui est super, super intéressant avec la nouvelle perspective de monde ouvert, dans le sens que non, le joueur n'est pas bloqué. C'était un peu plus, à mon avis, j'étais un peu plus comforted dans un certain sens. J'étais un peu plus rassurée en jouant, admettons, à Dark Souls 3, parce que Dark Souls 1, j'ai pas vraiment réussi, je suis trop pas bonne. Dark Souls 3 m'a donné plus de chance. J'adore les Souls. J'aime beaucoup y jouer. J'aimerais énormément get good. J'essaie très fort. Mais on dirait que Dark Souls 1 était au-delà de mes capacités. Dark Souls 3, ça a très bien marché. Donc, mes exemples, je vais les tirer de là. Lorsque je me confrontais à un boss dans Dark Souls 3, je sentais que j'avais, le jeu me disait, tu as les capacités pour affronter cette personne à ce moment-là. Si tu ne réussis pas, c'est parce que tu n'as pas assez internalisé les patterns que tu dois faire, tu n'as pas assez eu de patience pour faire ça. Par contre, donc je me sentais un peu prise en charge, je me sentais dirigée, mais d'une bonne façon, parce que c'était rassurant d'une certaine façon, en disant « OK, ben si tu as réussi à te rendre là, c'est parce que tu es supposé être capable de le faire. » Dans Elden Ring, par exemple, il y a ces roulettes de sécurité-là qui sont enlevées en garochant le joueur dans ce monde-là qui est habité par des ennemis qui sont extrêmement, extrêmement dangereux, extrêmement forts au premier abord. Oui, les autres sources avaient également des boss optionnels. On n'était pas tout le temps bloqué en disant « OK, ben, tu dois faire cette action-là tout de suite », mais je trouve que c'est quand même une nouvelle perspective dans Elden Ring qui ajoute encore au processus de step back et de réflexion, qui demande aux joueurs de réfléchir en disant « OK, ben, est-ce que je suis vraiment supposé me battre contre cette personne-là? » Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Puis c'est ce qui est très intéressant là-dedans. Tu peux essayer, tu peux grinder ce boss-là pendant le temps que tu le désires parce que techniquement, tu pourrais le faire. Si, tout comme ça serait possible de se rendre à la fin de Breath of the Wild pour les speedrunners et de décider comme tout de suite, let's go, on va battre Ganon. Mais est-ce que c'est recommandé? Peut-être pas, mais tu peux le faire.
C'est intéressant.
Oui, effectivement, il n'y a pas ce côté un peu à la Final Fantasy où le boss va te faire une attaque qui va être imparable, inesquivable, qu'il va te falloir un niveau. Sinon, si jamais tout le monde meurt, bah, tu n'as pas le niveau, tu retournes dans les champs, tuer des zombies et des slimes et tu reviendras 10 niveaux plus tard, effectivement. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce matin, il y a quelqu'un qui a battu, je crois, le premier boss, je ne sais plus si c'est Godric ou Margit, au niveau 1, avec son équipement de base, il a réussi à faire le boss. Donc, comme quoi, c'est possible. C'est très dur, mais c'est possible.
Good for him. Bien joué.
Il y a les défis aussi, genre faire tout le jeu tout nu avec un arc, oui. Sans armes.
Ouais, avec que des roulades.
La communauté, on va en parler, et ça, c'est très important. La communauté derrière les Souls qui se développe, c'est très important. Mais je reviens sur ce que tu disais, Sarah, à un moment donné, qui est très, très, très pertinent. Dès le début d'Elden Ring, en fait, ils ont voulu expliquer aux joueurs, à travers la mécanique, ce qu'ils attendent d'eux, et je viens juste de le réaliser quand tu l'as expliqué. Alors, Jimmy l'avait dit, on peut rater le tutoriel. Donc, en fait, dès la première zone, ils te disent, en gros, c'est un jeu où il va falloir que tu explores un petit peu et que tu sors des sentiers battus. C'est une façon très, très violente de mettre une claque dans la face et de dire, voilà, bah, tu n'avais qu'à explorer. Et ensuite, tu as raison, il y a le premier boss qui est la sentinelle qui protège l'arbre. Et là, ils te font réaliser qu'on n'est plus dans un Souls, on n'est plus bloqué sur un chemin. Tu peux décider d'affronter ou tu peux le contourner et rentrer dans l'église qui est derrière et activer le feu. Et c'est très, très, très malin dès le début du jeu, en fait, de te dire, bah, voilà les nouvelles propositions qu'on vous offre. Sortir des sentiers battus, contourner les monstres. Voilà ce qu'il va pouvoir.
C'est vrai que j'ai réalisé aussi, quand elle l'a dit, il y a vraiment ce côté, OK, même quand tu es sur la map et tu vas avoir plein de petits mobs, les sous-estime pas parce que tu peux tomber sur ce genre de mobs-là qui vont littéralement te one-shot si jamais ils te touchent. Et effectivement, c'est vrai que moi, de nature, comme j'avais déjà fait les Souls, de nature, j'avais esquivé ce cavalier-là, parce que je me doutais qu'il était trop fort pour moi. Mais c'est vrai qu'un nouveau joueur qui ne connaît pas du tout, la première chose qu'il va faire, c'est « Ah bah tiens, il y a un cavalier, j'ai une épée, je vais aller le faire. » Ah, et ouais. C'est vrai que ça me rappelle un peu dans Dark Souls 1, ils avaient fait ce genre de blague, on va dire, où on se bat contre des morts vivants pendant tout le long, ils sont un peu faibles, ils vont un peu lents. Et à un moment donné, on arrive sur un chemin, donc on a une fourche, on peut aller à gauche, à droite. Et en fait, à droite, il y a une espèce de grand chevalier qui doit faire environ 5 mètres de haut, qui a un gros bouclier, qui est tout en noir, qui a une épée, qui ne nous regarde pas, donc il ne vient pas nous attaquer directement. Et on a le choix, soit on l'esquive et on va ailleurs, soit on l'attaque. Bien évidemment, sachant que j'étais pas très bon, j'ai été l'attaquer direct. Et en fait, ce chevalier-là n'est pas de mon niveau quand on va le voir. En fait. Et c'est pour ça qu'il est dos à nous, c'est fait pour dire « Ok, tu peux aller l'affronter ». Mais au niveau où tu viens d'arriver, au niveau où tu es, c'est pas conseillé. Effectivement, c'est vraiment pas conseillé. Ça me rappelle un peu ce genre de mécanique-là.
Il y avait Sébastien, justement, tu as lancé la question, mais ton avis là-dessus?
Ben, je suis content que vous n'avez pas tombé dans mon piège, parce que je pense que la question, c'est pas tant est-ce que ça le rend meilleur ou non, c'est plus qu'est-ce que vous préférez à ce niveau-là. Puis moi, je me place de l'autre côté. Moi, j'aime mieux la mouture précédente, celle qui était plus semi-linéaire qu'ouverte. Puis probablement juste par vos arguments, je les valide, je les remarque aussi, mais c'est pas ça que moi, je préfère. Moi, je préfère mieux le fameux Dark Souls 3, comme vous avez dit tantôt. Je trouve que c'est plus simple d'avoir un contrôle sur la difficulté. Donc, plus on ouvre ça en monde ouvert, plus on perd le contrôle sur cette fameuse difficulté-là. Puis moi, c'est celle que je trouve qui est précieuse et qu'il faut conserver. Donc, le fait que ça s'appelle Elden Ring et pas Dark Souls 4, je pense que c'est là que je suis à l'aise avec tout ça. Donc, je peux continuer à préférer la mode des Souls. Et, parce que là, je n'ai pas non plus la barrière de distance temporelle avec Elden Ring. Je ne l'ai pas fini non plus. Mais moi, au contraire, je me promène dans l'environnement et je fais comme... J'ai hâte de trouver un chemin avec un boss ou j'ai hâte de trouver un donjon qui va mettre mes compétences. Parce que là, moi, je n'ai pas pris de chance. Là. J'ai fait le build pour lequel je suis le plus confortable et j'ai l'impression de juste avancer puis de tout fouetter avec mon cheval. Tout le monde tombe et j'ai hâte de recevoir de la difficulté. Et je me dis... Et peut-être que je devrais juste recommencer avec un autre build, mais en même temps, je suis habitué à me dire, à une minute donnée, je vais avoir un mur, donc je vais continuer à min-maxer mes affaires. Et une fois de temps en temps, oui, je les rencontre aussi, les boss, les toughs. Mais dans l'exploration, c'est pas là que j'ai mon pied. Et je me fous du crafting. J'ai rien crafté depuis le début du jeu, mais j'ai tout lavé la map au cas où qu'un jour ça me serve. Puis ça, moi, je trouve que j'aurais aimé mieux avoir une stratégie d'optimisation de ressources alors qu'elle n'est pas là. Puis là, je le réalise. Puis là, la prochaine fois que je jouerai, ben, je sais à quoi je m'engage, mais je ne le savais pas à cette époque.
J'ai l'impression qu'ils ont essayé de concilier deux mondes, en fait, parce qu'on a un monde ouvert, mais en même temps, il y a les fameux, ce qu'ils ont appelé les Dungeon Legacy, en fait, les grands donjons du jeu, où cette fois-ci, tu rentres, il y a une lumière bleue qui fait que ton cheval disparaît et tu es obligé de tout faire à pied. Et là, on revient dans une structure semi-linéaire qui t'est chère, qui est celle des Dark Souls. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de concilier ces deux mondes. Donc, peut-être que ça ne fonctionne pas pour les grands amateurs d'un chemin très, très linéaire, mais... Je trouve
également.
C'est quand même assez bien dosé. Mais Sarah, de toute façon, on va te laisser la parole. Hein. Tu vas nous parler d'accessibilité.
Ouais, avant de partir là-dessus, je voulais faire une petite tangente justement sur le Stormveil Castle, qui est un peu une lettre d'amour aux anciens Dark Souls, qui est un délice de level design parce que un des piliers de la legacy du level design des sources, c'est de créer des raccourcis. Réussir à mapper, parce que oui, on a une map maintenant dans Elden Ring. On a une sorte de top view de où est-ce qu'on est, donc qui est très, 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 très utile, justement, en termes d'accessibilité, que je vais parler bientôt. Mais une fois qu'on est dans un intérieur, on n'a pas plus d'indications de où est-ce qu'on s'en va. Donc, on a un monde, le monde d'Elden Ring est très, 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 très axé sur l'extérieur, sur les grands espaces, se promener à travers ça, l'exploration, sauf qu'ils donnent quand même à leurs fans qui sont habitués d'avoir des donjons, des châteaux, quelque chose à se mettre sous la dent et qui vient récupérer toutes les codes, en fait, du level design des Dark Souls en disant « Oh my God! » Je ne sais pas tant où je suis, mais finalement, je suis tout le temps à la bonne place parce que la façon dont l'environnement est construit amène le joueur à constamment se retrouver dans une position et devenir mapper les alentours dans son cerveau. Donc, créer des raccourcis, finalement, loop back, les door cannot open from the side, on les connaît bien aussi. Et justement, retrouver l'endroit pour ouvrir la grille du Stormveil Castle est extrêmement satisfaisante, tout comme l'ont été kickdown des échelles ou ouvrir des gates à la fois dans les Souls ou Bloodborne. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, qu'ils ont réussi à sprinkle. Désolée pour mes anglicismes aussi, puis je voulais m'excuser des formations, justement, travailler ouais, dans le domaine
professionnel.
Oui, c'est ça, on parle de mon domaine professionnel, donc j'utilise mon langage professionnel, je m'excuse beaucoup.
Pour les non-anglophones, elle parle du château de Voile-Orage, donc le premier,
voilà.
Le premier gros château qu'on rencontre.
Voilà.
Alors, Sarah, on va continuer à te laisser la parole. Tu voulais nous parler un peu d'accessibilité, justement.
Oui, ben justement, moi, ce que je trouve extrêmement intéressant dans Elden Ring, c'est la façon dont From Software a réussi à continuellement saisir, comprendre et surtout respecter sa fanbase. C'est ces joueurs irréductibles, je pourrais dire, en cherchant le bon mot, mais tout en réussissant à amener des nouvelles personnes dans ce fun-là. Donc, en réussissant à agrandir l'accessibilité à des nouvelles personnes. Puis donc, ça amène une réflexion sur comment ils ont réussi à faire ça, comment ils ont réussi à amener des joueurs qu'on pourrait dire, parce que oui, on ne va pas se mentir, on parlait de niveau de difficulté, les Souls, puis tout ce qui est From Software, puis tout même qu'est-ce qui a découlé de ça, on va parler, quand on va parler de Souls-like, puis qu'on va parler de même Hollow Knight ou d'autres types de jeux qui ont découlé de cette tendance-là, qui, oui, vont devenir un peu plus, quelquefois un peu plus facile, mais garder tout de même cette essence-là qu'est le Souls-like. Donc, mais on va, quand on parle de Souls-like, on associe automatiquement cette nomination-là à, OK, ben c'est pour des joueurs qui vont être hardcore, des joueurs qui vont aimer les défis, des joueurs qui ne sont pas là pour avoir nécessairement un good time. Ça va être un fun time, mais est-ce que le temps que tu vas passer à là, ça va être des fleurs et des papillons? Très probablement pas, mais ces joueurs-là vont ressentir une immense fierté quand ils vont réussir à passer à travers ces défis-là. Mais comment, dans ce temps-là, le défi de Elden Ring, c'était de venir agrandir cette fanbase-là et attirer des joueurs que, j'aime pas l'expression, mais des joueurs qu'on va dire un peu plus « casual », qui vont se mettre un peu en opposition aux joueurs hardcore, mais comment faire rentrer ces deux types de joueurs-là dans le même jeu et faire qu'ils apprécient tous les deux leur expérience. Donc, comment introduire une nouvelle fanbase, mais sans venir compromettre qu'est-ce qui est central à l'expérience d'un Souls. On parlait, puis énormément, il y a énormément de journalistes qui parlent de « Ah oui, mais est-ce que c'est le temps de mettre un easy mode à Dark Souls? » Et là, tout le monde part en flamme en faisant comme « Non, ça dénaturait l'expérience. » Mais justement, c'est la fine balance de ça. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'un easy mode ne passe pas avec la fanbase des Souls? Mais qu'est-ce qui fait que Elden Ring a passé? Et cette fine balance-là est extrêmement importante quand on a une fanbase qui est plus exclusive, comme je dis en faisant des parenthèses avec mes mains, des guillemets plutôt, parce que quand le joueur qui ne va pas, qui va se considérer comme hardcore, puis il ne faut pas oublier que c'est en divertissement, en jeu vidéo, la communauté est extrêmement importante. Puis va donc être un facteur même de marque d'identité. Quand on dit « Ah oui, je suis un player de Souls, moi j'aime ça les défis, j'aime jouer à des jeux qui sont difficiles et donc je vais faire partie de cette communauté-là et je vais me définir d'une certaine façon par cette expérience-là et avec les gens qui sont comme moi. » Et ça, justement, c'est... Parce qu'en tant que développeur, on ne fait pas un jeu pour nous-mêmes, on fait un jeu pour un public cible. Et très, 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 très important de venir respecter ce public cible-là qui est déjà extrêmement investi dans le jeu parce que ça fait des années que ça roule. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ouvrir la porte à des nouveaux venus, mais sans venir perturber ce sentiment-là de communauté? Donc, dans ce temps-là, c'est important de se demander, c'est quoi le core d'un Souls? Qu'est-ce qui fait qu'un easy mode ne passe pas parce qu'il viendrait potentiellement perturber le core d'un Souls, mais que le Elden Ring, ça passe. Puis quand je parle de core, je ne parle pas nécessairement de mécanique. Je parle de l'intention design, je parle de l'expérience, comme dirais-je même l'essence de qu'est-ce qu'est un jeu From Software. Puis, à mon avis, ça, on en a déjà parlé tout à l'heure, fait tant mieux, parce que si c'est quelque chose que vous autres ici, puis c'est Boris qui l'a mentionné, ce qui vient faire la marque, je crois, d'un From Software, c'est l'immense confiance qui est faite à la player base. Donc, une confiance qui laisse place à l'agentivité du joueur et ainsi qu'à une certaine forme d'émergence. Que ça soit dans les anciennes sources, que ça soit dans Elden Ring, on sent qu'il y a une confiance qui est réciproque entre le développeur et le joueur, ben c'est donnant-donnant. On a les outils pour réussir, mais on a un défi qui est équilibré. Justement, pour faire une parenthèse sur la confiance et le développement des jeux, j'aimerais ça citer Sid Meier, game designer de Civilization, qui sont des grands jeux. Sid Meier qui a dit dans une conférence, le GDC, donc Game Developer Conference, en 2010, donc ça fait quand même un bail, mais c'est quand même une citation qui vaut encore la peine d'être dite. Il a dit « One of the responsibilities we have as designer, I think, is to protect the player from themselves. » Donc, une des responsabilités que nous avons en tant que designer est de protéger les joueurs d'eux-mêmes. Ça, pris hors contexte, ça peut paraître terrifiant, mais c'est seulement pour expliquer un des moteurs design qui est quand même prévalent dans plusieurs, autant dans des open world que dans des jeux, que dans des jeux dirigés. Tous les designers vont avoir une idée en tête de c'est quoi la meilleure façon d'expérimenter le jeu qu'ils vont créer. Donc, beaucoup de jeux, quelquefois, puis comme là, on peut discuter de c'est quoi que ça donne comme expérience, est-ce que c'est trop dirigé, est-ce que ça ne l'est pas. Donc, beaucoup de jeux vont être designés et pensés en forme d'entonnoir afin de diriger le joueur de la façon clé dont le jeu pourrait être expérimenté. Donc, on parle, oui, de direction, de Golden Path, oui, en termes d'environnement, en termes d'objectifs, mais aussi en termes de façon d'encourager ou de décourager des agissements. Par exemple, si j'ai un jeu stealth, puis là, je peux donner un exemple, Metal Gear, tous les jeux stealth qui ont des scoreboards à la fin, Hitman, Metal Gear, etc., vont venir, non pas nécessairement, oui, ils vont venir décourager le fait de jouer full brut parce qu'il y a une version de leur jeu qu'ils désirent montrer aux joueurs. C'est la façon dont ils désirent que leur jeu soit expérimenté. Donc, ils vont venir, oui, décourager certains agissements, mais surtout aussi encourager d'autres. Donc, la réflexion clé là-dedans, c'est de voir comment on peut encourager ou décourager certains agissements afin de la façon la plus organique possible pour que cette façon-là de diriger le player ne paraisse pas, pour pas que ça paraisse comme étant du handholding ou pire, une punition, parce qu'on ne veut pas, en tant que joueur, se faire dire « tu ne fais pas la bonne façon, tu n'as pas le bon comportement quand tu joues le jeu qu'on te propose ». Je ne dis pas que les choses sont sorties totalement de cette façon-là de faire du design, parce que oui, en tant que designer, on a tout le temps une idée, on a un golden path, on a comme la façon, oui, clé, comment qu'on veut que le jeu, comment le jeu devrait être expérimenté, la façon optimale de jouer. Bloodborne, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, encourage le fait d'être plus aggro, d'être plus rapide en redonnant de la vie tout de suite après une contre-attaque. Si on perd de la vie, ben clac, t'es encouragé à agir, mais c'est par un système de reward. Mais dans le cas des Souls, par exemple, que ce soit, oui, que ce soit Bloodborne, malgré l'exemple, que ce soit Elden Ring, tous ces comportements-là, donc toutes ces façons de gently diriger le joueur vers un comportement optimal demandent un travail de la part du joueur. Donc, on parlait de la map tout à l'heure. Oui, on a une map. Oui, on a des sites de grâce avec des indications de « OK, mais le prochain objectif est là », sauf que ça demande aux joueurs d'observer et de comprendre qu'est-ce que le monde a à lui donner. Et donc, c'est tout le temps, comme je disais tout à l'heure, c'est tout le temps donnant-donnant, puis ça en résulte un jeu qui est basé sur l'apprentissage. Et le player est amené à observer et à agir selon ses observations. Et c'est donc ce pacte-là de confiance qui est fait entre le joueur et les développeurs, qui se résulte en étant, on te donne tels outils et tu vas, si tu les utilises, si tu apprends à les utiliser, si tu observes suffisamment bien pour les utiliser, tu vas pouvoir relever les défis qu'on te propose. une multitude d'outils, donc une multitude de défis, mais qui ne sont jamais injustes par rapport à ce qui est donné comme outil aux joueurs. Jamais en jouant un Souls, je me suis dit, OK, ben Là, ça peut arriver, des problèmes peut-être de mécanique. Je pense à la fight avec Renala, où est-ce que je pouvais lock sur n'importe quelle personne alors que je voulais lock sur d'autres personnes. Mais ça, c'est pas un jeu parfait. Mais la plupart du temps, ce qui est proposé aux joueurs va être un défi fair qui ne sera pas frustrant, parce que si le joueur meurt, ce qui va absolument arriver, il ne va pas sentir que c'est la faute du jeu, mais c'est bien de la faute de lui-même, parce qu'il est supposé avoir tous les outils en place pour développer une façon optimale de battre cet ennemi-là. Ce qui a rendu Elden Ring, à mon avis, plus accessible, c'est la diversification de ces outils-là. On a énormément plus de façons de confronter les ennemis, les challenges et les différents défis qui nous sont donnés en tant que joueur, parce qu'on a beaucoup plus d'outils et ces outils-là sont toujours optionnels. Ces outils-là ne vont pas venir ruiner ou même un temps soit peu toucher à l'expérience des joueurs hardcore, des joueurs qui sont des fans de Souls, des joueurs qui veulent jouer absolument de la façon la plus puriste du monde. Et peut-être qu'après ça, comme ils vont garder un petit sentiment de fierté en disant « Ah ouais, moi, j'ai battu tout le jeu sans utiliser aucun summon. J'ai battu tout le jeu en melee. J'ai battu sans utiliser aucun Spirit Ashes, qui est comme les loups ou les belles méduses qu'on peut summoner, qui vont aider. » Mais ces outils-là vont être des moyens d'attirer des nouveaux joueurs dans le grand ring de ce nouveau jeu sans venir potentiellement ternir une expérience. Donc, on parlait de la map, on parlait du crafting. Quand je parle, on va aussi pouvoir parler de types de build, des types de build qui vont être plus melee, donc plus hands-on, qu'on doit donc se fier sur le type de réflexe, et d'autres types de build qui vont être plus à distance ou qui vont se fier sur un type d'incantation à donner. Et ça, ce qui est merveilleux à mon avis, c'est que c'est pas un easy mode. C'est seulement que ça vient chercher d'autres types d'intelligence vers les joueurs. On n'est pas Le mind des gens n'est pas tout fait pareil. On n'est pas là pour relever tout le temps les mêmes défis. Et en diversifiant les outils, justement, le fait d'avoir ces Spirit Ashes-là, devoir être conscient des endroits où on peut les summoner, savoir quel summon est intéressant contre quel boss, ça amène toujours le core des Souls, qui est l'observation, qui est la compréhension des outils, qui est de juste savoir en tant que joueur qu'est-ce qui est mis à ma disposition pour permettre à des joueurs comme moi qui ne veulent pas nécessairement utiliser le melee. Là, je dis moi, je suis comme très, très, très orgueilleuse là-dessus, puis j'y vais avec une grosse hache et puis une massive épée, mais je vois justement des gens jouer avec des sorts, du spellcasting et des summons. Je trouve que c'est extrêmement, extrêmement intéressant voir les façons de jouer qui sont amenées avec ça. Et en aucun cas, From Software te fait sentir qu'en faisant ça, tu joues un easy mode. C'est une mécanique. Tous les outils qui sont mis sont placés comme étant des mécaniques viables, qui sont balancées et qui sont intégrées de façon naturel avec à la fois l'environnement, le lore, tout est pensé de façon extrêmement symbiotique, qui font que ça en résulte dans une expérience beaucoup plus accessible et surtout, comme je disais, qui vient mettre au défi plusieurs types d'intelligence, plusieurs types de joueurs même à travers tout ça.
Il me semble que les deux grands mots qu'on pourrait retenir de ce que tu expliques, c'est le pacte de confiance, c'est ce que oui. Je retiens de ce que tu disais. Donc c'est, et le deuxième mot-clé, c'est certainement le respect. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est un développeur qui est apprécié, c'est un développeur qui respecte ses joueurs, il sait ce que ses joueurs attendent, et il sait en même temps que même s'il veut attirer un plus large public, comme tu nous l'as expliqué, ça ne doit pas se faire au détriment de l'identité singulière des From Software. C'est-à-dire que Miyazaki l'a répété plein de fois, il n'y aura jamais un mode facile, ça c'est certain, parce que justement il y a le respect des joueurs hardcore, et tu l'as bien mentionné, le fait que tous les outils soient optionnels, ça fait partie du pacte de confiance, on fait confiance aux joueurs, on sait qu'on a des joueurs intelligents, s'ils veulent jouer extrêmement hardcore et n'utiliser aucune invocation, ils peuvent le faire, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, et ça je suis d'accord avec toi, je pense que les autres sont assez d'accord avec ça, donc c'est un développeur vraiment à l'écoute de son public et qui comprend son public, et ça je trouve, ça fait qu'ils auront toujours du respect pour les années qui viennent, je l'espère pour eux.
C'est surtout ce qui est drôle en plus, c'est que je pense qu'au tout début peut-être que la question s'est posée, mais c'est vrai que l'histoire d'un easy mode, je l'entends quasiment depuis Dark Souls 1 en fait, donc je pense qu'au tout début la question devait réellement se poser, et en fait... Ça, à chaque jeu, ça revient. Je veux dire, celui qui a relancé le débat, ça a été Sekiro, notamment, qui, lui, pour le coup, du peu que j'en ai fait, j'ai pas eu le temps de finir, mais du peu que j'en ai fait, vraiment plus intense que les Souls. Effectivement, ils ont quand même eu l'intelligence, et ça, j'ose espérer que ça marquera les. Évidemment, ça reste un outil de conception, mais j'espère que c'est le genre d'outil qu'on va plus utiliser. C'est qu'il n'y a pas de easy mode, on ouvre juste les possibilités sur un jeu. C'est-à-dire que. En plus, l'univers est quand même fait pour être. L'univers est sombre, il est dur, il est comme on disait, il est désespérant. Tout le monde te dit que les cinq qui se battent pour les gros objectifs à abattre, qui se battent pour le pouvoir, ils sont super forts, qu'ils ont des compétences que les autres n'ont pas. Donc il faut, pour avoir un accord avec le gameplay, il faut que ces boss-là restent des choses très très dures à battre pour pas avoir cette espèce de dissonance entre toutes les gens me disent qu'ils sont super forts et en fait moi j'arrive, je suis en mode easy, je les esquive automatique et en fait j'arrive à l'avoir du premier coup. Non, il y a vraiment ce côté, ils valent leur réputation en fait. Il y a vraiment à chaque fois qu'on affronte plein de boss, on se dit ah c'est cool, il y a des patterns, des choses. Mais moi en tout cas personnellement, à chaque fois que je savais que j'allais rencontrer un des cinq là, ça allait être ok, là ça va être sérieux, là je vais devoir m'investir vraiment pour apprendre ce boss-là. Et en général, on se fait tuer plusieurs fois, notamment, ils ont très souvent d'autres patterns. Donc là, on se dit, ah, c'est vrai qu'il va s'énerver, il va encore avoir des pouvoirs en plus. Et en général, ils nous déçoivent pas là-dessus parce que, genre, il y a vraiment des fois, j'étais, ah, ça va, il est facile. Et là, il se transforme, et je dis, non, j'avais oublié. Et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et que j'ose espérer va rester. Parce que c'est. En fait, c'est comme on dit. Je pense, moi, personnellement, le mot que tu as utilisé, que je pense résume le mieux le jeu, c'est vraiment l'apprentissage. C'est un jeu. C'est le genre. Même depuis Dark Souls 1, c'est le genre de jeu que. Alors, hormis peut-être certaines exceptions, mais moi, de tous ceux que j'ai entendus qui ont joué au jeu, j'ai jamais connu personne qui, dès qu'il a commencé à jouer au jeu, il a dit « Ah ouais, j'adore ce jeu ». Non, au tout début, tu prends tellement une claque que tu vas dire « Ah non, j'y arrive pas, je suis nul, je me fais tout le temps tuer ». Et après ça, tu t'y remets avec un autre état d'esprit en te disant « Ok, le jeu va me faire souffrir, mais je vais essayer quand même ». Et une fois que tu arrives à adhérer au principe addictif du « je meurs, j'apprends, je bats et je passe à autre chose », c'est là que le jeu devient vraiment intéressant et que tous les jeux de la licence ont vraiment ce côté ultra addictif. Même si l'histoire est ultra passionnante, le lore est très profond, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir au niveau du scénario ou de l'univers, il y a vraiment ce côté, je trouve, alors, la métaphore est un peu bancale, mais on ne joue pas un Super Mario pour découvrir Bowser, on joue un Super Mario parce qu'on veut faire les niveaux, on veut les maîtriser, on veut aller le plus vite possible, on veut avoir le contrôle de ce qu'on fait, mais en même temps aimer le faire. Et je trouve que la licence Souls a vraiment ce côté-là du « oui, on le fait pour finir le jeu, pour avoir l'histoire, mais en grande majorité, on le fait surtout pour découvrir le prochain boss, pour avoir une nouvelle difficulté, le battre, etc. »
Sarah aussi disait qu'il y avait des anciens fans, les core, et il y avait les nouveaux fans. Je pense que sur les réseaux sociaux, ils se sont rencontrés. Des fois, on voit des débats là, qui émergent de ça. Puis il y a des personnes qui disent comme « Hey, comment ça, j'ai jamais trouvé le journal de quête? Il est où? » Puis là, ben, avec différents niveaux de respect, la communauté lui répond. En ce moment, j'ai pas vraiment regardé tant que ça à la communauté puis la réception, mais j'ai quand même vu dans mon feed Facebook des enjeux qui ont été soulevés là, là-dessus. Là. Le fameux Git Good là, qui est mal perçu ou genre si tu comprends pas, c'est parce que c'est pas fait pour toi, ce genre de discours-là. Mais il y en a aussi, je pense, un autre qui est plus bienveillant, j'ose croire, mais je ne saurais pas dire lequel est le plus présent ou le moins. Je ne suis pas tant dans les communautés de joueurs, là.
Ben,
Oui.
si on va sur Reddit, là, tu vois que ben, moi, j'ai pas vu beaucoup de mépris. J'ai vu beaucoup d'entraide. Puis c'est ça aussi, hein, le côté un peu de laisser à soi. C'est qu'à un moment donné, c'était tanné de ne pas savoir comment avoir des nouveaux sons. Puis de juste, okay, ben, va voir. Puis, c'est ça, tout le monde sait que qu'il y a plein de ressources, plein de walkthroughs. Puis les créateurs sont conscients de ça aussi. Je pense que dans les années 90, on n'avait pas fait un jeu comme ça. Ben, peut-être, mais là, tu sais, ici, il y a cette option-là. Toujours t'appuyer sur la communauté qui est là aussi. Puis il y avait des guides qui sortaient peut-être le jour même aussi, la sortie.
Je pense que la communauté peut même être considérée comme une mécanique du jeu, ben, de tous les jeux From Software, même avec à la fois les flaques de sang, le co-op, les messages qui se laissent et le flou volontaire qui est laissé sur le lore, sur les éléments à découvrir. Je crois que le jeu, puis encore une fois, c'est une marque d'apprentissage, de débrouillardise, de confiance d'une certaine façon, de dire, OK, ben, on a une communauté qui est solide, donc entraidez-vous entre vous. Puis des fois, oui, des fois c'est moins bienveillant, des fois il y a du get good qui se donne, ce qui est comme dommage, mais il y a beaucoup, beaucoup d'interactions qui viennent se mettre en ligne de compte en disant bienvenue à ces nouveaux joueurs-là et on est une communauté qui va vous aider à vous faire une tête sur est-ce que oui, c'est votre type de jeu. Parce que c'est pas grave si c'est pas une marque de désaveu comme de ton cred de gamer si Elden Ring ou les From Software en tant que tel, ce n'est pas ton type de jeu. Mais seulement avoir un aide de la communauté pour presque désapprendre certains réflexes qui viennent, oui, avec les journaux de quête, avec le fait de tout le temps se faire enligner dans un endroit, avec ces choses-là, les icônes également. C'est ça, les joueurs qui sont habitués à ça doivent désapprendre pour ensuite savoir si, oui, bel et bien, ils vont apprécier leur expérience. Et avec justement ce contact avec la communauté-là, ils sont pas tout seuls dans ce nouveau type d'apprentissage-là.
Ça nous permet de faire un lien avec ce que Boris voulait nous expliquer sur la narration, donc l'accessibilité du jeu, comment le jeu raconte son histoire, évidemment. Donc Jimmy a mentionné le lore, comme on dit, très important dans les Souls. Alors Boris, on t'écoute.
Oui, ben c'est une narration qui est très fragmentaire, hein, qui justement l'open world par ça fait en sorte que moi je sais pas vous là, mais moi je joue pas les jeux vidéo pour l'histoire, hein. Souvent je le joue malgré. Je ne suis pas le plus gros gamer, puis je suis peut-être passé à côté de certaines exceptions, mais il y en a, là, il y a Last of Us. Mais souvent, l'histoire des jeux vidéo est pas très bonne, maladroitement. Il y a des gros blocs d'exposition qui sont dompés dans des animations, dans des NPC. Puis là, c'est pas du tout le cas. Puis je pense qu'il y a deux raisons. Deux choses qui permettent ça, c'est que premièrement, l'histoire est évoquée, hein, c'est pas un roman, c'est pas un film, c'est vraiment un univers qu'on explore. Donc, notre premier accès à l'histoire, c'est qu'on commence, on a une espèce de narration très allégorique. Je n'ai pas tout compris, j'ai commencé trop vite, je n'ai pas encore sûr de comprendre ça. Mais c'est correct, c'est ça aussi, c'est une légende, hein. Puis une légende, ben, c'est oral, ça dépend à qui on parle, ça dépend des régions. Zeus fait couche avec une chèvre ou avec un bouc, dépendamment des villages, là. Donc il y a ce côté-là aussi un petit peu, c'est très allégorique, c'est très évoqué. Après ça, après cette courte narration, ben, on est laissé pour soi, puis là, on explore, et puis Là, on va comme aller chercher bout par bout. Et c'est un peu le joueur qui décide finalement qu'est-ce qui l'intéresse, quelle ligne il va suivre, où est-ce qu'il va s'embarquer ou pas. Et puis, la surprise, évidemment, c'est ça la plus-value du jeu. Hein. Mais telle description d'objet va raconter une histoire, tel NPC va raconter une histoire, on décide de le suivre ou pas, on décide de s'y intéresser ou pas. Ça m'amène un peu aussi à la participation de J.R.R. Martin, qui a été très médiatisé. Et il y en avait même qui était un peu déçu parce que finalement, son application était assez fragmentaire aussi. Parce que lui, ce qu'il s'est fait demander, c'est pas d'écrire l'histoire, il s'est fait demander d'écrire le lore. Parce qu'il ne pouvait pas demander à un auteur de roman d'écrire pour un média qui est forcément interactif, donc où tu ne contrôles pas tous les éléments. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit un peu le mythe de Elden Ring. Il a fait ses personnages principaux. Et puis, Elden Ring, ça se passe après un cataclysme. Et donc, From Software, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés chercher ces personnages-là que Martin a créés. Puis, ils sont déformés. Donc, lui, il a créé cette espèce de canevas. Puis là, eux, ils ont décidé comment ces personnages-là allaient être corrompus, déformés, tainted, comme on dit en anglais. Fait qu'il y a aussi cette espèce de travail de déconstruction dans la narration qui a été faite. Je pense que ça, le rôle que Martin a joué est quand même assez important, mais qu'il faut aussi se rendre compte que c'est un rôle un peu de... C'est ça, là, de lore, là, de plus-value, là. C'est pas une narration linéaire, forcément. Donc, qui devient le narrateur, finalement? C'est le joueur, c'est lui qui vient mettre ses pièces-là ensemble. C'est lui qui va aller chercher le backstory de tel personnage, puis tel personnage, puis c'est ce qui fait aussi un petit peu la force. Je voulais aussi finir sur un peu l'esthétique manuelle du jeu, c'est-à-dire le fait que les mains sont un peu partout dans l'histoire. Que l'une des divinités du jeu, c'est deux doigts, que les personnages... Il y a comme des moines là, qui les interprètent, qui s'appellent des liseuses de doigts. Donc, ces doigts-là communiquent en bougeant d'une certaine manière. Et les liseuses de doigts les interprètent. Il y a aussi le premier monstre qu'on affronte, qui est une espèce de crabe qui ressemble aussi à une main déformée. Donc, la main revient souvent. Et je disais, au début, je disais en blague, ben, c'est parce que le punch de l'histoire, c'est que finalement, c'est un jeu vidéo. Puis que c'est le joueur découvre que c'est un joueur. Mais finalement, plus j'y pense, j'ai pas fini le jeu, fait que c'est peut-être ça le punch, ça m'étonnerait. Mais finalement, plus j'y pense, plus je me rends compte que la symbolique, qu'elle soit volontaire ou pas, elle est là. Hein, c'est la main qui manipule le personnage principal. Qui est le joueur, qui est le narrateur, ben c'est pas pour rien qu'elle est là. C'est pas pour rien que toutes les collectibles qui permettent le multijoueur, c'est des doigts, c'est des reliques de doigts qui sont pétrifiées. Donc, il y a une espèce de symbolique habile qui est là aussi, qui donne le pouvoir à la main, voire, qui est un peu le glorifie, qui met en valeur.
Tout le lore, de façon des Souls et surtout des Elden Ring, est basé sur l'aspect mythologique et symbolique que tu viens de mentionner. En fait, c'est un jeu qui est extrêmement ésotérique, qui est cryptique et qui fonctionne par des associations d'idées. Donc, on va voir en croisant tel personnage qu'on a affaire à quelque chose qui fait référence au christianisme. Il y a d'autres choses qui relèvent du judaïsme. Il y a l'histoire des âges qui est classique dans les Souls. Il y a un âge qui s'effondre et qui va faire naître un autre âge qui n'est absolument pas chrétienne, celle-ci, qui est vraiment plus dans les religions ancestrales grecques et hindoues. Où c'est cyclique, en fait. Et cet aspect cyclique se retrouve même dans la façon dont le jeu est composé, c'est-à-dire que nous, on meurt et on renaît tout le temps. Donc, il y a vraiment cette tradition, ce qui appartient à des traditions religieuses très anciennes et qui participe du mystère du jeu et peut-être de la fascination qu'il exerce sur nous. Et ce que tu mentionnais sur la narration, alors je sais que certains théoriciens du jeu vidéo ont mentionné cela en parlant des jeux From Software, en disant qu'ils ont développé une narration environnementale, qui est très inédite dans la façon de raconter et d'élaborer une fiction. Donc, tu l'as mentionné, on ramasse des objets et puis on doit lire la description des objets pour recouper certaines informations. Tout passe beaucoup par les objets, d'ailleurs, dans les Souls. Même les épées, n'importe quelle chose qu'on ramasse va avoir une petite description, un petit texte très cryptique. J'ai lu, en préparant un petit peu l'émission, je lisais un article vraiment très intéressant de Yannick Kernec et Clément Personnic. Hein, c'est dans un article qui s'intitule « Herméneutique et joueur modèle, interpréter le mythe et le fait religieux dans la série Soulsborne de From Software ». C'était publié dans Science du jeu en 2021, donc l'année dernière. Alors je cite, ils disent « L'ensemble de la série se révèle ainsi exceptionnellement mythogénique en tant que création constituée de mythes. Le joueur interprète, joue et amoncelle une connaissance brute des mythes, attitude de type mythographique de recensement des mots, description d'objets, dialogue de PNJ, etc. et des images, symboles, statues, rencontres directes avec des entités, événements intracinématiques plus rarement, etc. Il devient dans une certaine mesure un opérateur mythologique qui actualiserait un monde pour servir sa propre autonarration. » Voilà, c'est l'idée qu'on est face à un univers qui est sacré, qui a existé depuis toujours, en fait, parce qu'on arrive dans un monde qui est, il y a des siècles, même des millénaires qui sont passés. Le sacré de ce monde est donc à décrypter, et le joueur est comme son avatar, un non-initié. On revient à l'idée de l'apprentissage que mentionnait Sarah. C'est un non-initié à la fois dans les mécaniques de jeu, sauf pour les grands habitués des Dark Souls, et non-initié dans la sacralité d'un univers qui a perdu son sens et qui est en ruine, en fait, parce que c'est aussi ça, les Souls-là, ce sont des univers qui sont en ruine et qui ont connu une gloire. Alors, on a ça notamment dans Elden Ring avec le fameux... je crois que ça s'appelle le cercle d'or ou quelque chose comme ça, c'est l'ordre d'or, je crois que c'est ça, qui protège, il y a toujours quelque chose qui protège ce qui faisait l'unité du monde à l'origine, qui est en ruine maintenant.
Ce que j'ai sursauté avec les Dark Souls, c'est le fait qu'on peut tuer les NPC, genre les personnes, on peut tuer les marchands. Fait que là, moi, j'étais comme, hey, mais est-ce que je vais pouvoir finir le jeu si je tue cette personne-là? Fait que de par sécurité ou par convention, ben non, je ne le faisais pas. C'est quand j'ai regardé peut-être des vidéos en ligne, là, parce qu'il y a énormément de lore. Là. On parlait tantôt de mythes. Moi, je n'ai pas la patience ou peut-être les connaissances de les décoder. Tandis que le web, c'est là-dessus que je l'ai... J'ai cru le percevoir, c'est ce que c'était. Là, je suis comme, en étant moi-même pas fan de fantasy, je suis très pragmatique. Là. Finalement, l'histoire, ben, je ne l'ai pas trop vue. Moi, j'ai juste vu G.R. Martin comme étant un stunt marketing. C'est un gros, gros nom. Puis là, imaginez que notre jeu va être cool. En plus, G.R. Martin l'a écrit. Oh my God! Puis on ne va pas plus loin. On n'a plus besoin qu'il travaille pour vrai. On a juste besoin de son nom. Fait que je parle sans avoir été creusé, mais j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé. J'ai un exemple qu'on a ici au Québec avec Studio Borealis qui ont fait Mage of Mistralia. Ils sont allés chercher Ed Greenwood, qui est un campaign setting qui a fait l'univers des Royaumes oubliés. Bon, si tu aimes Donjons Dragons, si tu aimes les Royaumes oubliés, ben, tu vas sûrement aimer notre jeu. Donc, c'est un petit peu ça qu'on a fait aussi. Puis les fans de Game of Thrones sont multiples. Si en plus ils sont gamers, ils vont encore une fois peut-être vouloir aller du côté du jeu qu'on leur propose. Fait que c'est le même que je l'ai perçu. Puis je m'étais dit, en sachant un peu aussi comment ça fonctionne, la scénarisation dans les jeux, je sais que ça se fait pas facilement. Et un auteur de livre, pour avoir aussi jasé avec les développeurs chez Mage of Australia, Ed Greenwood a fait très peu pour le jeu. Et c'est à la même image. Il a conçu peut-être un univers autour et eux, après ça, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec ça en utilisant son nom. Puis je pense que c'est encore ici un beau cas de figure.
Boris a mentionné ça dans sa présentation en expliquant que R. Martin avait dressé des grandes lignes. En fait, j'ai cru lire qu'il avait surtout designé les grands boss, donc les fameux demi-dieux du jeu. C'est lui apparemment qui les aurait créés, qui aurait créé leur histoire derrière. C'est pour ça qu'on a des trucs vraiment hallucinés que seul genre R. Martin peut faire. Donc le fameux demi-dieu qui se greffe des membres de gens pour être plus fort, ou alors encore pire, le personnage qui est littéralement un coprophage, donc qui se nourrit d'excréments et qui ruine les cadavres. Donc ça, c'est vraiment, on voit que c'est dans du Game of Thrones. Je pense qu'ils ont été cherchés, selon eux, d'un point de vue japonais, parce qu'on n'a pas trop parlé de cette culture aussi, d'un point de vue japonais, ils ont été chercher celui qui représentait pour eux l'archétype de l'auteur qui écrit sur de la fantasy des univers décadents, des univers qui sont en ruine. Ce genre R. Martin, c'est ça. Et eux, ils font des jeux qui sont déjà des représentations de ruines, de choses qui ont déchu. Et ils se sont dit, bah alors lui, avec Game of Thrones, on a un occidental qui écrit du Moyen-Âge sordide à souhait et il va nous aider à décupler la chose.
Surtout qu'en plus de ça, un jeu comme les Souls, qui ont quand même assez linéaire, on peut se permettre de créer un arrière-fond. On bat les boss, mais globalement, c'est très sur de l'instantané. On n'a pas trop besoin de... Comme le jeu est très serré, pardon, plus serré, il y a beaucoup d'exploration, mais quand même très refermé sur lui-même, il n'y a pas besoin d'avoir un lore ultra développé. Il suffit juste, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, de dire, bah, tiens, telle magie, elle vient de tel endroit, d'un pays lointain, on ne sait pas trop où il est. Ce truc-là, il vient d'un truc, d'un peuple ancestral qui a disparu. On est tellement dans une localité qu'on peut se permettre à peu près de faire ça. Mais dans un monde ouvert où à chaque fois qu'on va faire une référence à une magie ou un truc, on est censé pouvoir le voir sur la map, et il faut vraiment une cohérence de tout, puisqu'on ne peut pas juste dire, bah, tiens, ça vient de loin, et en fait, on ne sait pas où est le loin, parce que la carte du monde est vraiment représentée dans Elden Ring. Il n'y a rien qui nous dit qu'à l'est ou à l'ouest, il y a autre chose. C'est ça le... Donc, il faut vraiment qu'il y ait... que tout soit justifié. Et je pense que Martin, vu la complexité, par exemple, de Game of Thrones, il a le pouvoir de dire, oui, effectivement, là où vous faites référence à ça, ben, n'oubliez pas de dire que, je ne sais pas moi, les disciples de telle magie, ils ont disparu, donc vous ne pouvez pas mettre de tableau, de, par exemple, d'un des maîtres de cette magie-là ici. Vous devez à chaque fois faire en sorte que vous ne mettez pas les pieds dans le tapis dans votre propre jeu. Et effectivement, moi, au début, je pensais que J.R. Martin, j'avais ce côté un petit peu, genre, ben, c'est que du marketing, et au final, le lore ne change pas beaucoup, ben, pas que change pas beaucoup, mais se déroule de la même façon que les autres. Mais apparemment, c'est vraiment sur l'ambition du lore qu'il voulait proposer que Martin a participé. Et c'est vrai que j'ai aucun doute qu'il a aidé à faire en sorte que l'âge soit complexe, que les trames soient complexes, mais tout en restant logique. Et qu'en fait, il a pu participer à ça, parce que c'est pas du tout le même niveau d'ambition entre un lore de Souls et un lore d'Elden Ring. D'autant personnellement, je me suis beaucoup plus intéressé naturellement au lore d'Elden Ring. Il m'a plus investi Elden Ring dans celui d'Elden Ring que celui de Dark Souls, parce que celui de Dark Souls, je trouve qu'il y a, même s'il y a beaucoup de choses qui se racontent, on le découvre moins par l'exploration et plus par la description des objets que le lore d'Elden Ring, ou même l'architecture. Il y a certains cadavres aussi, des caves de géants, on se dit tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils font là. Certains boss, certains pouvoirs des boss vraiment racontent tout ça en fait. Et Martin, vraiment de la part de Miyazaki, disait en gros, son boulot n'est pas à sous-estimer. Mais peut-être qu'effectivement, la presse, elle, a trop exagéré le côté « Martin va venir, ça va être un Game of Thrones dans la forme software ». Non, ce n'est pas du tout ça.
Mais justement, un des mots que tu dis, puis qui me parle beaucoup là-dedans, c'est la notion de cohérence. George R. R. Martin, c'est un world builder. Il l'a fait avec Game of Thrones. Si on prend Game of Thrones comme étant un récit, oui, il se situe dans une temporalité donnée, sauf que le « avant », Game of Thrones, et la cohérence de tout ce monde-là peut même nous faire réfléchir en tant que lecteur à un après, ou à qu'est-ce qui se passe sur les côtés de tout ça, ou tout qu'est-ce qui sort du récit lui-même qui nous est exposé dans le roman. Je pense que c'était ça aussi sa tâche à faire sur Elden Ring, de construire quelque chose, de construire un monde qui vivait bien avant que le joueur y mette les pieds, et comme on l'expliquait tout à l'heure, dans lequel on a une adéquation de l'avatar et du joueur qui consomment, apprennent et évoluent dans ce monde-là en même temps. Et pour avoir cette cohérence-là, il faut un lore solide, il faut que tout soit pensé, il faut surtout aussi, oui, que les factions, l'architecture, le social, le passé, présent, futur, soit pensé, mais surtout la place de cet avatar-là dans ce monde-là. Et je crois que si on y va avec la perspective de tous les From Software, où est-ce que c'est très rare même qu'on ait une narration, qu'on ait un récit qui est fixe, une des choses les plus importantes côté narratif dans ce temps-là, c'est le world building, d'où toute l'importance du travail de Martin sur cet opus-là.
Chers auditeurs, l'heure tourne évidemment avec Elden Ring, on pourrait faire plusieurs émissions, hein. On le constate, il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler, hein. Les notions de sacré, peut-être la culture japonaise qui est derrière le développeur, qui explique aussi certains choix artistiques, certains choix au niveau du gameplay. Je propose à nos invités de donner un dernier mot pour terminer l'émission. On va commencer avec Sébastien.
Oui, bon, quand le jeu est sorti dans la première semaine, moi j'ai dit « c'est le jeu de la décennie ». Là, tout le monde a fait comme ben, « voyons donc, ça se peut pas, nanana ». Et là, je suis un petit peu pogné avec ces mots-là qui ont sorti trop vite. Pas mon jeu personnel de la décennie, finalement. Elden Ring me donne le goût de recommencer à jouer à Dark Souls. C'est ce qu'il a fait. Mais je suis très heureux qu'il va le démocratiser. Et je pense que des fans d'Elden Ring vont se dire ben, « finalement, je vais les essayer, les Dark Souls ». Puis ça veut dire que c'est même encore des rentrées d'argent supplémentaires pour le studio. Donc, c'est un beau fait accompli. Donc, bravo au moins pour ça.
Oui, je suis bien d'accord. Jimmy, un dernier mot pour vous?
Oui, non, effectivement. Après, même si j'avoue que pendant 7h30, on a beaucoup dit du bien du jeu, il y a également des défauts. Hein. Ce n'est pas parfait, notamment des gros problèmes de caméra, quelques problèmes d'équilibrage. Mais je veux dire, à part ça, vraiment, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent vraiment pas le jeu ou qui ne connaissent vraiment pas la licence, j'ose espérer qu'on va vous donner envie au moins d'essayer. Que vous aimez, que vous aimez pas, c'est pas grave. On a chacun nos types de jeux qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais juste donnez-lui une chance. Et surtout, comme on disait au fur et à mesure du jeu, vous inquiétez pas si vous mourrez beaucoup. Vous inquiétez pas si vous avez de la difficulté. C'est normal. C'est le principe du jeu de montrer vraiment un défi qui ne peut se faire que par l'apprentissage. Et c'est pas une solution. Il n'y a pas aucune solution qui va vous dire oui, faites 3 sauts de côté et voilà, ça a marché. Non, c'est vraiment de l'apprentissage. N'hésitez pas si vous voulez le faire solo. N'hésitez pas si vous voulez aller sur les forums. La communauté est en grande majorité très ouverte à vous aider. Il y a très peu de. On a parlé un petit peu de la communauté élitiste. Au final, il y en a très peu dans la. Moi, en tout cas, je suis sur les forums Facebook Québec et communauté officielle. Et en grande majorité, dès que quelqu'un a un problème, on ne se moque pas de lui. Au contraire, c'est vraiment essaye de faire ça. Tu as un build comme ça, essaye d'utiliser tel sort. Donc, vraiment, si vous voulez donner une chance au jeu, il n'y a aucun souci. Tout le monde va se faire un plaisir de vous aider si vous bloquez. C'est normal, mais surtout, vous serez fiers quand vous allez voir que vous allez vous améliorer et vous allez toujours aller de plus en plus loin. Et je vous jure, c'est très addictif au bout d'un moment.
Oui, la fierté, le fait de se surpasser, c'est la marque de ces jeux-là, exactement, hein, Sarah.
J'abonde dans le sens de mes collègues. C'est un jeu qui est extrêmement intéressant, qui est très rafraîchissant dans un terme d'open world qui a vraiment développé sur les piliers que Breath of the Wild avait mis avant, qui possède absolument des faiblesses, qui a ses défauts, mais qui au final vient un peu triompher de la fatigue open world qu'il existe aussi, qui propose une formule extrêmement rafraîchissante que je vous encourage aussi à explorer.
Bien, merci chers auditeurs. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner au podcast Pop en Stock. C'était Régis Perfieux, votre animateur, avec nos chers invités. Je les remercie pour cet échange très civilisé, très courtois et très passionnant. On se voit dans un prochain épisode. Merci à tous.